Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Aujourd'hui, nous vous proposons une rencontre avec...
Alors, je m'appelle Valentine Porche, j'ai 28 ans. J'habite à Valence depuis 3 ans et demi et je suis originaire de Lyon. Voilà.
Aujourd'hui, il sera question d'analyser et de déconstruire, de débattre, de discussion, de se questionner, de se prendre des claques, d'écologie politique et de militantisme et de décroissance, de diffuser du savoir de façon active et donc et surtout d'éducation populaire. Une rencontre avec Valentine de l'association CEP, le collectif d'éducation populaire pour l'émancipation sociale. Bonne écoute.
J'ai grandi dans un milieu familial plutôt à droite et plutôt classique. Enfin, classique, je sais pas, mais... Mais par contre, avec une vraie prégnance des questions politiques, de l'actu, on écoutait les infos tout le temps et il y avait toujours un mot sur ce qui se passait dans l'actualité politique. Donc effectivement, depuis toute petite, c'est quand même, ça m'intéressait. Comment fonctionne la société, je me posais des grandes questions, etc. Mais je suivais par contre au niveau idéologie le profil de mes parents, c'est-à-dire je sais pas pourquoi on changerait la manière dont la société est construite et la droite est plutôt le parti le mieux placé pour gérer l'existant. Donc ça c'était quand j'étais ado. Et moi mes grands basculements, ça s'est fait beaucoup à la rentrée, enfin j'ai fait des études à Sciences Po et j'ai rencontré plein de gens qui n'avaient pas du tout la même vision que moi et qui étaient aussi hyper motivés pour discuter politique pendant des heures et des heures et des heures. Et voilà, j'ai beaucoup de gratitude envers mes amis qui m'ont analysé, déconstruit, accompagné dans un certain nombre de sujets et de thématiques qui m'a aidé à me remettre en question et surtout à développer plus d'esprit critique, etc. par rapport à tout ça. Après, un gros point de bascule, il y en a beaucoup, mais je pense à un, c'est quand je me suis formée au BAFA, donc aux fonctions d'animation, d'animatrice, avec les CMEA, c'est une institution vieille de près d'un siècle d'éducation populaire. Et j'avais 18 ans, et pendant une semaine, on a fait énormément de contenu théorique, mais qui se passait pas du tout, les fesses sur une chaise, à écouter quelqu'un qui sait, mais on nous demandait tout le temps notre avis, on débattait, on affinait notre point de vue, etc. On a discuté de sujets de société, on a discuté de sexisme, de féminisme, c'était il y a plus de 10 ans, donc c'était moins en vogue, et vraiment, ça m'a mis une claque. Et ça m'a vraiment ouvert à « Ok, on peut apprendre différemment, on peut se questionner, on peut transmettre aussi. Voilà. » Donc ça a été un point de bascule en plus de mes études. J'en suis venue à découvrir l'écologie politique et ça a été mon premier espace de militantisme quand j'avais 19-20 ans. Et avec le mouvement de la décroissance qui en plus a l'avantage de... C'est son but, c'est de re-questionner toute la manière dont notre société est construite, sur quelle base elle se repose, sur le travail, sur le productivisme, sur gagner plus, vivre plus pour gagner plus, etc. Et donc progressivement, pendant tous ces mois de militantisme auprès de la décroissance, ça m'a permis de faire des cliquets et de revenir en arrière sur énormément de fondements de la société et de re-réfléchir à tout ça. Après, ma limite, c'est que j'ai un profil qui réfléchit beaucoup et qui réfléchit plus qu'il agit. Non, c'est pas tout à fait vrai. Mais
il y a quand même un petit côté, un petit feu orange qui te dit « Ah, des fois, tu réfléchis un peu trop par rapport au fait que tu agis, comment tu le... »
Non, c'est plus le décalage entre une posture intello qui regarde le monde et la difficulté de vraiment... le faire infuser dans ma posture et ma pratique. Enfin, y a quand même un décalage. Quand j'ai été étudiante, avec des amis, on a mis en place des espaces de politisation pour les étudiants, et du coup, pour diffuser ces idées-là, remettre en question le monde, etc. Ma limite aujourd'hui, quand je regarde a posteriori, c'est que ça se faisait... on se faisait encore sur un format conférence avec un vieux gars qui avait écrit un livre qui était certes passionnant, mais je reprenais pas encore ce que j'avais appris justement dans ma formation d'animatrice, d'avoir des formats beaucoup plus inclusifs et qui nous mettent en action et qui mettent notre réflexion en action. Ça, il m'a fallu plusieurs années pour lier les deux bouts, lier la critique sociale, on va dire, et les formats et les manières d'apprendre et de diffuser du savoir qui sont beaucoup plus actifs. Et voilà.
Et comment ça se passe au sein de ta famille? C'est quoi les discussions que vous avez? Comment il y a des échanges? Vous arrivez à...
Oui, oui. Alors, au sein de ma famille, au début, ça a été difficile. Ça a été difficile parce qu'en plus, comme toute personne qui découvre l'engagement politique, j'ai été très radicale et voire dogmatique. Si tu suis pas mon avis, c'est vraiment que t'es bête et etc. Donc voilà, moi, j'avais une posture très intense et fermée. En face, pour eux, c'est allé très très vite, donc ils n'ont pas du tout suivi mon cheminement, et voilà, et je pense qu'ils avaient vraiment l'impression de se prendre des leçons de morale. Donc pendant plusieurs années, ça a été un peu compliqué, et au final, ça s'est détendu, notamment quand moi j'ai arrêté d'en faire la promotion active. Après, vu que maintenant ma vie est baignée de ces valeurs-là, je parle de ma vie, donc il y a ça qui est en coulisses, mais j'en fais plus, je suis plus là à faire de la propagande au déjeuner. Il s'avère qu'il y a eu énormément aussi d'événements politiques entre MeToo. J'ai une famille essentiellement composée de femmes. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont fait que elles-mêmes, mes sœurs, ma mère, se sont beaucoup re-questionnées et réorientées politiquement et sont maintenant extrêmement outrées de ce qui se passe dans notre société et au gouvernement. Donc maintenant, on se rejoint, à part avec mon père, mais je pense qu'il y a des gens qu'on ne changera pas. Mais on discute avec beaucoup de plaisir et la politique reste un sujet de discussion commune et qu'on a plaisir à creuser.
Vous êtes bien à l'écoute de Sur la route. On discute jusqu'alors avec Valentine de son parcours, de sa formation en quelque sorte. Et avant d'aborder le CEP, le collectif d'éducation populaire pour l'émancipation sociale, on va parler de rencontres décisives, et puis d'éducation populaire. Retour à l'entretien. Tu peux nous parler de ta rencontre avec la collègue avec qui tu as monté l'association CEP?
Oui, cette collègue s'appelle Juliette Hénard. On s'est croisés à Lyon quand on y habitait toutes les deux, mais on s'est surtout retrouvés quand moi je me suis installée à Valence et qu'elle y habitait déjà. Elle développait des stages autour des peurs pour les femmes, pour questionner nos émotions et voir en quoi ils ont une portée politique, en quoi ça peut aussi être un levier de transformation politique. Et la peur, c'est une émotion qu'on est très nombreuses à vivre et qui a beaucoup de sources personnelles, etc., mais aussi sociétales. Le patriarcat fait beaucoup pour alimenter nos peurs. Et donc elle portait ce projet-là. Et moi, je continuais à animer des formations, des conférences, comme j'ai toujours fait depuis 10 ans au niveau bénévole. Mais là, l'âge avançant, on va dire, et l'expérience et le réseau, maintenant j'avais des opportunités pour aussi avoir des prestations rémunérées. Et donc moi, ça m'intéressait d'avoir un espace, un véhicule commun sur lequel on pourrait commencer à travailler, quoi. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait, elle pour porter les stages Même pas peur, et moi pour porter des activités de formation en éducation populaire. Ça c'était fin 2021, et dans la foulée, avec une équipe bénévole à Lyon, on a monté un autre festival, le festival Le Pas de Côté, qui est un festival 100% dédié à l'éduc pop. Pendant 2 jours, on fait vivre plein d'animations, de formations, de conférences gesticulées, d'ateliers de réparation de vélos et d'outils du quotidien, etc. On fait vivre la diversité de l'éduc pop aujourd'hui pour donner à voir et le faire connaître du grand public. Et donc ça a été aussi un des gros projets, un des premiers projets portés par l'association CEP. qui s'appelle le Collectif d'éducation populaire pour l'émancipation sociale.
Là, on vient de parler de pas mal de choses, et là, on en était à parler d'éducation populaire. Bon, moi, ça me paraît intéressant, comme je te disais, de réexpliquer au grand public ce que c'est que l'éducation populaire.
Tout à fait. Pour moi, l'éducation populaire, c'est un ensemble assez large, en fait, de pratiques et de réflexions, mais qui part du principe qu'il n'y a pas que des personnes expertes, des personnes qui ont écrit des livres, qui donnent des cours, etc., qui détiennent le savoir sur comment la société fonctionne. Et que si on croise nos vécus, si on croise nos réflexions, si on s'appuie aussi sur des bouquins, mais sans en faire l'alpha et l'oméga, on pourra tous ensemble, voilà, continuer à s'enrichir. Et qu'il y a aussi des méthodes beaucoup plus simples et conviviales pour accéder aussi à ces savoirs experts que d'assister à des cours ou à des conférences plombantes. On peut se partager un livre, le lire tous ensemble. On lit chacun 10 pages, après on s'en parle. Et généralement, on a une bonne image déjà de ce que dit ce livre. Et c'est beaucoup plus accessible à tout le monde que d'assister à une conférence. Donc ça part de ce principe-là. Après, ça vient aussi de l'histoire ouvrière du 19e siècle qui souhaitait développer des formats pour que les ouvriers, après leur journée de travail, après avoir été exténués par des conditions de vie difficiles, mais qui voulaient quand même se questionner sur le monde et nourrir leur conscience de classe, le but, c'était de trouver des moyens pour qu'ils aient accès à de la théorie politique, à des essais sur la situation sociale, etc., qui voient plus loin que leur situation locale, qui s'informent sur l'international et sur d'autres corps de métier. Donc ça vient aussi de cette origine-là. Et ça vient également, à la même période, au 19e siècle, il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent voter, pas encore les femmes, mais les hommes sont beaucoup plus largement invités à voter au fil des régimes. Et il y a tout aussi un courant républicain qui veut former ses futurs citoyens, qui doit voter, doit être quand même suffisamment éduqué pour ne pas prendre des décisions à côté de la plaque. C'était ça dans leur raisonnement. Donc il fallait affiner, éduquer les citoyens aux questions sociales, aux questions sociétales, et donc diffuser l'éducation au-delà de l'école. C'est-à-dire, c'est pas parce que t'as passé 16 ans tu auras plus d'espace pour te former, pour te questionner avec d'autres, etc. Et c'est investir l'éducation des adultes tout au long de la vie et de manière participative.
Ok, on va parler de ton association, donc on repart de la base. Comment ça s'appelle et à quoi ça sert, je te dirais bien.
Alors mon association, elle s'appelle le Collectif d'éducation populaire pour l'émancipation sociale. Ça fait CEP, comme un champignon qui essaye de se répandre dans la société pour créer du lien et donner de la force à nos luttes et à nos engagements. Et c'est une association qui vise à nourrir l'engagement, justement, faire en sorte, par plein de manières, que avoir une posture active, politiquement engagée dans notre société, soit pas difficile. Ça passe par plein d'aspects, des formations pour monter une association, être accompagné sur les démarches, la paperasse, les comptes, etc. Souvent, ça paraît trop compliqué pour des personnes. Et donc, on essaye de faciliter ce passage à l'action. Mais aussi, parce que j'évoquais précédemment, des ateliers pour se questionner sur des thématiques sur lesquelles on se sent pas tout à fait suffisamment outillé, pour se rassembler aussi. C'est le but qu'on a donné à l'événement qu'on a organisé début octobre, la Foire des Possibles, qui rassemblait plus de 20 associations engagées sur Valence, Bourg-les-Valence, Chabeuil, Saint-Péray, etc. Le but étant de se connaître et de se renforcer et de créer des coopérations locales, parce que on est dans un environnement politique qui fragilise de plus en plus l'engagement associatif et militant. Donc nous, on croit très fort qu'il faut se serrer les coudes. Et donc concrètement, on organise des ateliers plusieurs fois par mois à Valence et alentour. Du coup, des arpentages pour lire des livres, des espaces pour lier notre histoire personnelle et l'histoire politique. Qu'est-ce qu'on a ? Des ateliers de réflexion autour d'un monde post-capitaliste et post-révolutionnaire. Voilà. À quoi ça pourrait ressembler si c'était joyeux et désirable ? Voilà. Tout un certain nombre de choses que vous pouvez trouver sur le site ces-asso.fr. Pour l'avenir, on aurait bien envie de monter aussi un festival d'éducation populaire à Valence pour faire connaître davantage ces pratiques-là, pour que ça infuse dans les collectifs, dans les associations, mais même dans votre entreprise, dans votre famille, dans votre syndicat d'immeubles. L'autre jour, on avait une personne qui est venue se former à la tenue de réunions inclusives et participatives alors qu'il est gérant de syndic. C'est excellent que ça diffuse dans la société et qu'il y ait de plus en plus d'espaces qui soient à l'écoute. Et moins discriminant.
Alors on discute avec Valentine du collectif d'éducation populaire pour l'émancipation sociale, le CEP. Et vous êtes toujours à l'écoute de Sur la route. Retour à l'entretien. De quoi les gens ont besoin? Et vous, votre association, elle répond à ce besoin-là. Mais c'est quoi ce besoin?
Ce qu'on a constaté, c'est que les petites associations et les personnes, les citoyens qui veulent s'investir n'ont pas beaucoup d'espace pour se former, simplement. Tous les accompagnements à la vie associative portent beaucoup sur les grosses assos sportives, les assos d'aide aux familles, etc. Et c'est très très important. Mais du coup, il y a un petit trou dans la raquette vis-à-vis des assos citoyennes et militantes. Ce qui n'est pas anodin d'un point de vue politique non plus. Et du coup, là, c'est vrai que nous, quand on se situe à cet endroit-là, c'est très important. Quand on anime une fois par mois des ateliers aux causes toujours, où on est aujourd'hui sur comment s'organiser au sein d'un groupe, comment apprendre à débattre, apprendre à s'outiller sur l'actualité, on a beaucoup de monde et on a des gens assez variés qui ne trouvent pas ce contenu ailleurs parce que la formation des bénévoles se fait assez peu sur ces thématiques-là, quoi. Donc nous, en fait, on agit pas mal sur comment renforcer la colonne vertébrale des collectifs qui s'organisent, comment aussi flécher des personnes un peu en quête d'engagement vers des collectifs existants. Ça, c'est vrai que c'est assez important. Et on anime aussi des formations à la demande de subventions pour les petites assos. Enfin, voilà. C'est comment on outille et on répond aux besoins de ces petites assos militantes, engagées, politiques, qui passe au-delà des radars de l'aide institutionnelle.
Et par rapport au public que vous accompagnez, c'est plutôt un public jeune, parce qu'on sait que le monde associatif, il y a énormément de bénévoles, mais qui sont du coup des personnes qui sont à la retraite, parce que du coup, ils ont du temps, puisque sinon les gens sont dans un moment actif de leur vie et donc ont moins de temps à proposer au bénévolat, etc. C'est quoi votre situation? C'est quel genre de public vous qui vient vous voir?
Eh bien, on a effectivement pas mal de personnes à la retraite qui animent des associations, mais aussi pas mal de jeunes, de trentenaires, dont je fais partie, qui ont fait le choix de travailler moins pour vivre mieux. Donc on est nombreux ici à bosser 3 jours semaine, etc., à gagner peu de sous, mais à vraiment profiter de la vie très fort. Donc toutes ces personnes-là font vivre beaucoup d'associations du territoire et en développent. En 2 ans, là, il y a 5 nouvelles assos militantes locales qui se sont créées. Donc au final, c'est assez varié. Et on arrive à embarquer avec nous quelques quarantenaires, cinquantenaires, plus à la marge, mais des personnes qui effectivement se sont questionnées sur leur parcours, parfois sont en cours de transition et veulent aller vers d'autres choses. Et nous, on est un peu le pendant politique de la vallée de la Drôme qui est par rapport à des transitions. Il y a beaucoup d'initiatives politiques en vallée de la Drôme, mais il y a aussi beaucoup d'initiatives plus personnelles, de développement personnel, etc., qui répond à un vrai besoin. Mais ici, nous, on attrape plus les personnes dans un angle, eh ben, rejoins un collectif, enfin voilà, on va t'accompagner aussi sur ta réflexion de vie et sur cette dimension sociétale, quoi.
Voilà, l'émission touche à sa fin, mais nous avons encore tout juste le temps de retrouver une dernière fois Valentine du collectif d'éducation populaire pour l'émancipation sociale. Vous êtes bien à l'écoute de Sur la route, retour à l'entretien.
Nous, ce qu'on aimerait idéalement, ce serait que des personnes nous proposent une thématique qu'ils aimeraient aborder, un livre qu'ils aimeraient lire, mais à plusieurs, parce que tout seul, ils n'ont pas envie. Et nous, à la suite, on anime ce temps-là. Enfin voilà, on part des idées extérieures aux nôtres, parce que c'est vrai que c'est compliqué parfois de tourner dans sa propre roue interne. Ça nous ferait du bien. Puis, dans l'idéal, on aimerait se diriger vers une formation d'autres personnes qui serait en capacité d'animer ces temps-là, quoi. Enfin, c'est pas nous garder le monopole sur l'animation d'arpentage, etc. On va lire ton bouquin, puis tu vas aussi voir comment ça se passe, comment j'explique, quelles consignes, etc. On prendra le temps de redébriefer ensemble, puis la prochaine fois, si t'as envie de t'essayer, c'est avec grand plaisir. On sera là en backup en cas de besoin. On a envie d'idées, de contributions extérieures, etc. Et...
Tu disais un peu plus tôt qu'il y avait un moment où vous proposiez de réfléchir au monde post-capitalistique par rapport à cette expérience que vous avez eue là, tu vois, par rapport à ces sujets, de réfléchir ensemble à qu'est-ce que ça pourrait être. C'est quoi les réponses que vous avez, c'est quoi les pistes de réflexion, à quoi ça pourrait ressembler?
C'est un atelier qui s'appelle le Labo Fiction. Qui est un dispositif pour se plonger dans un personnage et imaginer sa vie, son entourage, son quotidien, etc. On va dire 10 ans après une révolution anticapitaliste. Et les réponses, elles sont plurielles. Enfin, ce que les personnes imaginent, il y a beaucoup de désertion des grandes villes, etc. Mais il y a aussi beaucoup de refaire communauté. Nous, c'est vraiment quelque chose auquel on croit beaucoup. Et globalement, à Valence, c'est une dynamique dans laquelle on se trouve. C'est trouver du lien pour s'appuyer. Après, tout à fait honnêtement, je vais pas arrêter de broder. Moi, c'est Juliette qui anime ces ateliers, donc elle me les a racontés, mais donc je pourrais pas aller plus loin.
Et toi, au-delà d'animer des ateliers ou pas, ça ressemblera à quoi pour toi?
Eh oui. Pour moi, dans ce monde-là, il y aurait beaucoup de temps retrouvé avec la fin de énormément de corps de métier parfaitement nocifs et inutiles. Et puis aussi beaucoup de temps retrouvé à ne pas avoir de publicité en permanence, etc. Donc de temps mental et de temps physique qui œuvrerait à mettre ce temps au profit des solidarités locales, quoi, enfin d'accueillir des personnes voilà, qui viennent d'ailleurs, de nourrir sa communauté. Ça fait écho à l'association La Cueillette qui va, avec des profils hyper variés, faire du glanage chez les producteurs du coin pour redistribuer des surplus agricoles auprès des structures en demande. En fait, ce temps-là que des associations essayent d'ouvrir, ce serait beaucoup plus généralisé.
Et pour vous, ça ressemblera à quoi un monde post-capitaliste? Allez, vous avez 2 heures. Merci à Valentine du collectif d'éducation populaire pour l'émancipation sociale pour la discussion. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur leur site CEPES-ASSO.fr. Un entretien mené par Sébastien Roblin de l'association Résonance. Mixage et musique par Indy Grand. Si vous voulez réécouter cette émission ou découvrir les portraits précédents, retrouvez-nous sur Facebook, YouTube, Insta ou notre site resonance.media. Résonance, R-E-Z-O-N-A-N-C-E. Sur la route, une série de portraits radiophoniques.